Ah ben certain qu'on est bien. Je peux pas me plaindre, je suis bien entourée en tout cas cet après-midi.
Oh
avec
oui.
Max Larouche jusqu'à 18h, Farnel Morissette qui vient de s'installer avec nous. T'as jasé brièvement, Max, dans les nouvelles de gestion de l'offre. Le fameux système de gestion de l'offre qui est un des principaux points de désaccord commercial qu'on a avec les États-Unis. J'ai vu passer ta capsule, Farnel.
Oui.
Je te suis. Souvent, quand je suis en vacances, l'actualité pour
moi... Non, dis-moi pas ça, ça me met de la pression. Là.
Mais je pense que ce que tu fais, ce qu'Alexandre Drolet s'est mis à faire, ce que tous les... Comment on peut vous appeler? Vous appelez des influenceurs, des créateurs de contenu, d'actualité?
Ben, le terme en anglais, c'est « news influencer bon. ». Je pense qu'une approximation de ça en français passe probablement. Une affaire de même.
« News influencer », j'ai l'impression que c'est la façon dont beaucoup de gens s'informent quand on n'ouvre pas les journaux,
de
quand on
ne
met pas
plus.
Les notifications, ouais. Là, on va se le dire. Là. Et donc, j'ai vu passer ta capsule sur le système de gestion de l'offre, puis on s'est dit pourquoi pas prendre un petit moment pour s'arrêter,
parce
en parler, l'expliquer.
On en parle tellement souvent de la gestion
ouais.
de l'offre.
Oui.
Puis tu sais, c'est comme un terme qui est rendu dans l'action. Mais j'ai l'impression que il y a bien du monde.
On sait ce que c'est sans savoir ce que c'est.
Ben c'est ça. On sait à peu près.
On sait que c'est important. On sait que ça, c'est un point d'accrochage.
Ça vient d'où,
ouais, mais qu'est-ce que c'est exactement?
C'est ça.
Pas toujours clair.
Ça a un impact, mais on sait pas trop comment. Puis je sais qu'on a des producteurs, des agriculteurs qui nous écoutent. Eux savent.
Eux le savent très bien. Eux pourraient donner la capsule que je vais faire à l'envers, les yeux fermés en dormant. Mais oui.
Qu'est-ce que c'est, Farnel? La gestion de l'offre.
T'sais, en gros, la gestion de l'offre, c'est un système qui touche la production. Dans l'industrie de l'œuf, du poulet, de la dinde et du lait. Et là, il y en a qui vont dire, il y en a aussi dans le monde du sirop d'érable, mais je vais le mettre de côté parce que le sirop d'érable, c'est que c'est une bête différente, puis c'est pas ça le point qui fait mal dans nos échanges
mais là,
économiques.
Je vais te poser une question vraiment niaiseuse, là, puis c'est peut-être un manque de savoir. Écoute, mais on apprend tous les jours. Le porc et le bœuf?
Ben, on va y revenir. Le porc et le bœuf n'est pas inclus non plus pour des raisons, je dirais, surtout historiques.
Okay.
Alors, commençons avec l'historique, mettons, c'est un bon point de départ. La gestion de l'offre a commencé dans les années 70, en 72, je pense que ça a vraiment commencé, suite à des grosses fluctuations dans le marché justement de l'œuf, poulet, dinde, lait. C'était aussi au début un peu de l'espèce de mondialisation où soudainement les marchés canadiens commençaient à voir une intégration possible avec les marchés internationaux dans ces produits-là. On est collé aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup de producteurs européens qui veulent participer à notre marché. Ça fait des grosses fluctuations. D'une année à l'autre, la production augmente, baisse, l'offre augmente, baisse. Alors, ben, par l'offre et la demande, les prix bougeaient beaucoup, ce qui faisait peur à beaucoup de producteurs qui, eux autres, dépendent de prix fixes et stables le plus possible pour pouvoir vivre. Et potentiellement, ça faisait politiquement mal de voir des agriculteurs commencer à avoir de la misère. Alors, ce qui s'est créé comme système, c'est un système où le gouvernement du Canada, à chaque année, par des études de marché, va estimer c'est quoi la demande canadienne totale en lait, en œufs, en poulet et en dinde pour l'année. Ça crée le montant total là, qu'on a besoin de produire, qu'on a besoin de remplir. Et ils vont diviser cette production-là parmi les provinces. Et les provinces, après ça, eux, ils ont chacun leur principe, leur processus, pour donner à chaque producteur, alors chaque agriculteur dans ces industries particulières-là, un quota. Ça, c'est un permis de produire une certaine quantité de lait, de poulet, d'œufs, de dinde par année.
Et, ils sont obligés de produire.
Et ben, ils n'ont pas le droit d'en produire plus que ça.
C'est un maximum. Okay.
C'est un maximum. En théorie, ils peuvent en produire moins. Quand je disais les agriculteurs qui connaissent ça, je les entends déjà me crier après. Là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je simplifie énormément.
Mais
essentiellement, c'est un maximum que tu as le droit de vendre après ça des transformateurs. À genre,
ton surplus, tu ne peux pas le vendre.
Ton surplus, ben, tu es supposé t'arranger pour ne pas en avoir.
Mais c'est ta poule.
Si tu en as, ben, c'est ça. Si tu as une poule qui a pondu 2 œufs par jour parce que c'est une poule miracle, ben, ces œufs-là, soit il faut que tu fasses quelque chose d'autre avec.
Mange-les, fais des omelettes pour la famille.
C'est ça. Tu peux pas. Tu peux, encore une fois, en théorie, il y a mille et une exceptions, mais en théorie, tu n'es pas capable de les vendre.
Ça, c'est un des points aussi qui... la gestion de l'offre est très controversée à la base, mais un des points, c'est que supposément qu'il y a bien du stock qui se fait jeter.
Ouais.
Tu sais, que c'est du gaspillage. Tu n'as pas le droit. Que
ben,
tu peux rien faire avec.
Si tu es un producteur de lait puis tu sais que tu as un maximum à vendre, tu ne vas pas t'arranger pour frapper exactement ton maximum parce que si tu as une bad luck en route puis tu perds 5 ou 10 ben ça, c'était 5 ou 10 %-là, tu ne vas jamais pouvoir le revendre. Alors, la plupart vont produire un petit peu plus puis le reste, ben oui, comme tu dis, malheureusement, c'est un processus qui mène à un peu de gaspillage parmi plusieurs autres raisons que ce soit controversé.
Puis comment ça fonctionne au niveau des prix qu'on établit? C'est-tu semblable aux États-Unis puis au Canada? mettons?
Ben, les prix sont pas directement fixés par le gouvernement, mais parce que le gouvernement contrôle l'offre et il base l'offre sur une certaine demande, ben là, selon les principes du libre marché, si tu sais l'offre, tu sais la demande, mm-hmm. t'es supposé savoir le prix. Alors, il s'arrange pour que les prix restent relativement stables. Des fois, je m'échappe et je dis fixe, mais ils sont pas fixés. C'est que les prix restent stables et c'est ce qu'on observe. Ça a d'autres avantages aussi. Notamment, ça a l'avantage que les petits agriculteurs peuvent être compétitifs dans un marché où, sans avoir leur part de marché garantie, ce qui arriverait probablement, c'est qu'un énorme méga-producteur qui est capable d'être plus compétitif qu'eux, éventuellement les achèterait. Okay. On aurait une consolidation de marché.
Fait que notre monde est content.
Les petits producteurs sont contents. Ça assure qu'on... Par petits producteurs, on s'entend. Là, c'est pas quelqu'un qui a 20 poules. Là, on parle de... Par petits producteurs, c'est quelques milliers de poules mm-hmm. ou de vaches. Mais par rapport aux États-Unis, on va parler de dizaines, voire des fois même des centaines d'animaux. Ça fait une production qui est supposée aussi être plus résiliente aux effets du marché. S'il y a un producteur qui a un problème, qui s'effondre, ben parce qu'on en a beaucoup plus en proportion de notre population, on est supposé être un peu plus résilient. Ça garde encore une fois les prix un peu plus stables.
Je me ferai peut-être pas d'amis, puis en même temps, peut-être que je suis dans le champ. Puis dans ma tête, automatiquement, si tu contrôles l'offre, les prix... ils peuvent juste monter.
C'est la critique principale à l'intérieur du Canada. C'est que oui, ça garde les prix stables. Oui, ça garde une diversité dans le marché des producteurs. Oui, ça garde les petits producteurs en business. C'est les consommateurs qui payent. Le prix du lait, le prix de l'œuf va être en moyenne un peu plus élevé à cause de ce système-là qu'il le serait dans un système de libre marché. Puis je veux dire, si on a la comparaison parfaite à côté aux États-Unis, en moyenne, le lait, l'œuf, le poulet, ça coûte un peu moins cher. Mais ce qu'on a vu aux États-Unis en janvier, par exemple, à un moment donné, ça faisait les nouvelles, la douzaine d'œufs se vendait dans certains endroits à 10, 12, 15 piastres même.
Il n'y a pas les affaires de grippe aviaire là-dedans?
Ben justement, parce qu'il y a des méga producteurs qui ont des centaines de milliers d'animaux. Si la grippe aviaire rentre dans une production, c'est une proportion importante de ta production totale qui vient de partir.
C'est le bordel, ben oui.
Alors, ben là, soudainement, tu as une pénurie, puis c'est ça qui fait que les prix explosent.
Fait qu'on n'est pas certain que la gestion de l'offre fait que les prix sont plus hauts nécessairement.
Il y a beaucoup d'études là-dessus, mais généralement, on peut présumer que oui, les prix vont être un peu plus élevés.
Okay.
Le contre-argument à ça, c'est que le système de gestion d'offres, ça veut dire que parce que justement les prix sont stables, un peu plus élevés pour les consommateurs, l'industrie n'a pas besoin de subventions. Alors, aux États-Unis, okay. en Europe, généralement, les producteurs vont recevoir des subventions qui sont tirées des taxes. Alors, d'une façon ou de l'autre, c'est les gens qui payent.
Est-ce que la qualité est affectée?
La qualité aussi, ça, c'est un autre argument, parce qu'il n'y a pas d'incitatif à essayer de couper dans la qualité pour augmenter ta production, pour baisser les prix, peu importe. Ben, ça crée un marché où on peut plutôt compétitionner sur la qualité parce que les prix, justement, sont tout à fait pratiques. Je ne vais pas dire contrôler, mais ils sont très difficiles à bouger. Puis ça je vais régulièrement aux États-Unis pour la job. C'est vrai que le lait, il goûte pas du tout la même affaire aux États-Unis.
Oui, mais c'est totalement ça. Il y a un texto qui est entré. Le lait jeté est dû à une mauvaise planification de la production. 15 ans en production, j'ai jamais rien jeté. On a le droit à une fluctuation, moins 15 à plus 10 jours de production. Ne pas oublier le dynamisme des communautés rurales par la diversité de producteurs.
Et je veux dire, je conclue, c'est un des... Je parlais des agriculteurs qui connaissent le système très bien. Eux, ils vivent et meurent par ce système-là. Alors, je me penche totalement derrière ce commentaire-là.
Te rends-tu compte d'ailleurs à quel point tu as mis ta vidéo hier soir, à quel point c'est controversé de parler de gestion de l'offre?
C'est controversé en général parce que, justement, même à l'intérieur du Canada, il y en a qui vont dire que ça veut dire que les consommateurs payent plus. Aussi, disons-le, c'est un processus qui est complètement contraire au libre marché. C'est un marché qui est contrôlé par le gouvernement. C'est de la planification centrale. C'est ce genre de choses qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, c'est du communisme. » Je ne veux pas me rentrer dans ce genre d'idéologie-là. Mais oui, c'est de la planification centrale du marché. C'est aussi particulièrement controversé ces temps-ci parce qu'on est en négociation commerciale avec les États-Unis qui, eux, n'aiment pas ce système-là. Mais là, avant de tout blâmer sur les États-Unis, il faut se dire on a eu des négociations pour des ententes commerciales de libre-échange avec l'Europe, l'entente transpacifique, et dans les deux cas, avec l'Europe et les pays pacifiques aussi, ça a été un point d'accrochage sérieux, notre système de gestion de l'offre, parce que la façon que c'est fait, on se rappelle, on prend la demande totale du Canada et on la divise parmi tous les producteurs. Alors, en théorie, 100% de la demande canadienne est supposée être remplie par des producteurs canadiens. Alors, si toi, tu es un producteur producteur en France de volaille, puis t'aimerais bien ça être capable de vendre ton poulet au Canada, ben tu peux pas. Parce que la demande, elle est conçue pour être entièrement contrôlée
mais
par...
Mais c'est bon pour nous autres, ça?
Ben, c'est, je veux dire, c'est, oui, c'est bon pour nous autres, mais c'est du protectionnisme.
C'est mal vu.
Ben, c'est, je veux dire,
c'est ce qu'on reproche à
c'est
Trump.
Ce qu'on reproche aux États-Unis, présentement, de faire du protectionnisme. C'est quelque chose qui limite les échanges internationaux. Et c'est pour ça que, justement, avec les négociations qu'on est en train de faire présentement, c'est controversé. On voit aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur les médias sociaux, des espèces de messages comme de quoi le Canada impose un tarif de 300% sur le lait des États-Unis. Ça, c'est le montant maximum des tarifs théoriques dans le système de gestion de l'offre, parce qu'il y a un petit peu de place dans le système de gestion de l'offre pour des importations étrangères.
Fait que c'est pas faux quand Trump dit que ce tarif-là existe, c'est juste que...
En pratique, il y a personne qui le
paye
ou presque.
Il existe en théorie
seulement. Le système de tarifs, encore une fois, là, je simplifie beaucoup et je salue tous les agriculteurs qui doivent me dire « Tu le dis mal, je suis désolé, je simplifie pour les gens qui connaissent pas ça. » C'est un tarif qui va en augmentation en fonction de à quel point l'importateur a dépassé les faibles limites qui sont permises. Alors, il n'y a aucun importateur qui va se rendre à 300%. C'est une limite théorique.
Mais comment on peut faire autrement pour que ça reste avantageux pour nous, mais qu'on soit plus ouvert à l'international?
C'est vraiment difficile à voir. Puis, je veux dire, quand on parlait tantôt, par exemple, du porc, du bœuf, il n'y a pas de système de gestion de l'offre dans ces affaires-là parce qu'il faut croire que dans les années 70, dans les années 60-70, il n'y a pas eu les fluctuations de marché ou pour des raisons historiques en tout cas. Et pourtant, on a une industrie porcine aussi. Peut-être que la question se joue dans d'autres formes de réglementation. On a une réglementation de notre industrie de la viande en général qui est différente d'ailleurs. Mais c'est une des grandes questions aussi à laquelle il n'y a pas de réponse facile.
Pourquoi François Legault tient c'est la première affaire qu'il dit tout le temps. Là.
Ouais. Ce qui est on pas va protéger la gestion de l'offre.
Ce qui n'est pas négociable. Quand je parle à Mark Carney, aux autres premiers ministres provinciaux, le Québec va défendre. C'est parce que le Québec est plus avantagé que d'autres provinces, entre autres?
C'est sûr que l'industrie du bœuf n'est pas très gros au Québec, mais on a une grosse industrie porcine, on a une très grosse industrie de lait, l'œuf un peu moins, mais quand même très présent aussi, le poulet, la dinde, très important. Je pense que c'est surtout que François Legault a une réalité, peut-être une réalité politique locale différente de, disons, Doug Ford. Doug Ford a largement été élu par des comtés de banlieue, disons, tandis que François Legault a formé son gouvernement largement grâce à des comtés rurale, où l'agriculture est peut-être un peu plus importante. Alors, François Legault...
il calcule ses propos.
Il fait son calcul politique, puis il réalise que lui, il est particulièrement vulnérable au vote des agriculteurs, et les agriculteurs dépendent du système de gestion de l'offre pour pouvoir continuer leurs entreprises.
Je lis quelques textos. Bon, tantôt, on avait un producteur qui nous parlait du lait. Il dit « J'ai aussi du porc, libre marché. C'est vraiment tough. À preuve, on est 600 producteurs indépendants au Québec. Le libre marché en agriculture, c'est une belle lubie, et je ne suis pas un mauvais gestionnaire, au contraire. » Il y a quelqu'un qui nous dit « Tu payes quelques dollars plus cher, mais ça t'assure d'avoir des produits québécois et ou canadiens. » C'est pas un peu important aussi.
Je suis totalement d'accord.
Moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Là. J'ai toujours préféré encourager local, comme on dit. Il y a des fermes en Europe qui regrettent l'abandon de la gestion de l'offre.
Ben, il y a eu beaucoup de fermiers en France, entre autres. C'était parmi leurs revendications que soudainement, ils réalisaient qu'ils étaient en train de perdre d'un marché contrôlé. Et puis, ça a été tough pour eux. Oui.
40% du lait canadien est produit au Québec. On a beaucoup, beaucoup de producteurs, d'agriculteurs dans l'auditoire.
Et je les salue tous et je les remercie tous de nous nourrir.
Puis, oui, absolument, mais je trouve ça important. Tu sais, je m'excuse, j'explique du mieux que je peux. Il y a une majorité de gens qui savent même pas ce que c'est, la gestion de l'offre. C'est important d'en parler. Puis tant mieux si vous voulez participer à la discussion 88-971-1021. Tu as parlé de sirop d'érable tantôt.
Oui, parce que...
Ça a titillé mon oreille.
Ben, c'est parce qu'il y a aussi... J'appelle ça un peu de la gestion de l'offre, mais il faut comprendre que c'est un système qui est assez différent. De un, c'est pas au niveau canadien, c'est juste au Québec. Et ça, c'est un système qui émane historiquement directement des producteurs eux-mêmes. Alors, contrairement au système de gestion de l'offre fédéral qui vient du gouvernement et qui a été appliqué à l'ensemble du territoire, le contrôle de l'offre du sirop d'érable vient des producteurs des producteurs de sirop d'érable qui se sont un peu unifiés pour...
Qui
ont pris la décision de le faire, qui se sont créés un système qui fonctionne avec une réserve stratégique de sirop d'érable. C'est toujours ça, ça fait rire les gens, que, surtout aux États-Unis, quand je leur dis qu'au Québec, on a une réserve stratégique de sirop d'érable,
mais qui est là
justement pour encaisser les fluctuations dans la demande. Alors, s'il y a un peu trop de production une année, la réserve stratégique va acheter le surplus pour garder les prix stables.
C'est pas là qu'il y avait eu un braquage.
Il y avait eu un vol. Le fameux vol de la réserve stratégique. Alors oui, je veux dire, ça aussi, ça existe et c'est très important pour les producteurs de sirop d'érable, mais ça, c'est pas un enjeu dans nos ententes commerciales parce qu'il y a à peu près juste au Québec, peut-être un peu en Ontario, où la production de sirop d'érable est tellement un enjeu économique important que les autres pays sont prêts à dire « OK, c'est correct, gardez-le votre marché. »
Le vol, ça avait été 3000 tonnes de sirop d'érable d'une valeur de 18,7 millions de dollars.
Il y avait même eu un film là-dessus,
Oui, c'est sur Netflix, fait. C'est ça que je suis en train de regarder. Une série Netflix dédiée à la corruption au sein des grandes entreprises. Dirty Money qui s'est intéressé à l'industrie québécoise du sirop d'érable. Puis on parle de ce fameux braquage-là. Ça s'était passé en 2012, là. Encore, là, si jamais ça vous intéresse. Là, mais ça avait été toute qu'une histoire, ça, effectivement.
Ouais.
Là.
Ouais. Mais la gestion là dans le sirop d'érable, beaucoup moins controversée parce que, justement, c'est quelque chose qui concerne à peu près juste le Québec et ça fait pas mal à nos ententes internationales.
Puis ça soulève pas d'enjeux commerciaux au final. C'est
non,
pas,
je veux dire, quelques producteurs au Vermont, je suis sûr qu'ils aiment pas ça, là, mais c'est pas assez pour attirer l'attention de Donald Trump encore, faut croire.
Puis y a-tu d'autres pays qui ont des systèmes similaires de gestion de l'offre où c'est un modèle qui est typiquement canadien?
L'étendue qu'on le voit au Canada, c'est typiquement canadien, dans les pays, disons, de libre marché occidentaux. Alors, tu sais, une gestion de l'offre de même, c'est quelque chose, on pourrait s'attendre à voir ça dans un pays où l'économie est planifiée de façon centrale. Alors ça, c'est une façon un peu polie de dire les pays socialistes et communistes. Mais dans les pays de libre marché occidentaux, au niveau que ça représente, c'est pas mal unique au Canada.
Est-ce que tu vois une possibilité que Mark Carney sacrifie la gestion de l'offre ou pour toi, c'est quelque chose qui est intouchable puis il peut pas aller là?
C'est tough parce que je sais pas ce qui se passe dans la tête de Mark Carney. C'est sûr que ça lui ferait très, très mal parce que, veut pas, malgré la controverse, le système de gestion de l'offre est politiquement très populaire pour les raisons qu'on l'a dit. T'sais, oui, la plupart des gens, si on leur demande vraiment, là, on sort toutes les abstractions. Es-tu prêt à payer quelques dollars de plus pour ton lait, pour tes œufs, pour s'assurer que les producteurs locaux restent en vie? La plupart des gens vont dire oui. Mm-hmm. Alors, t'sais, quand on vient à... En anglais, on dit « push comes to shove ». Quand on vient là, devant le mur, la plupart des gens sont prêts à appuyer le système de gestion de l'offre. Mais aussi, la dernière fois qu'on a renégocié notre entente de libre-échange avec les États-Unis, avec le président Trump, ça avait été une des demandes. Il y avait eu, en fin de compte, une toute petite ouverture additionnelle dans le lait, mais à toute fin pratique, puis encore une fois, je salue les producteurs agricoles qui vont peut-être avoir une impression différente, mais à toute fin pratique, au niveau de l'économie canadienne, ça n'avait pas vraiment bougé.
Encore des textos qui entrent. Quelqu'un qui nous salue, qui te salue, Fernel, qui salue tous les agriculteurs dans les champs aujourd'hui. Nous sommes dans le bison, le wapiti, la chèvre, tout pour la viande et c'est difficile parce qu'on doit se créer un marché. On n'a pas tellement de protection. On doit créer, en fait, tous nos marchés. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit la réserve. On l'a dans le lait aussi d'une certaine façon, beurre et poudre. Dans le porc, bien, le stock a congelé. Fait que beaucoup de gens qui... Julie qui dit nos pauvres producteurs porcins et bovins peinent à survivre. La gestion de l'offre assure aux producteurs agricoles un revenu constant. En tant qu'agronome, je vois la réalité et c'est pas toujours rose. Il y a ça à considérer aussi, veut pas, là. La dernière question que j'avais de côté pour toi, Fernel, c'est pourquoi il y a une distinction à faire entre la gestion de l'offre au niveau de la production, fait que les producteurs de base qui ont leur quota, etc., là, et les transformateurs alimentaires comme Olimel, Natrel, etc.?
C'est, la gestion de l'offre se fait surtout, un des termes importants dans la gestion de l'offre, c'est le prix à la porte, c'est-à-dire c'est là pour contrôler les quotas et s'assurer un contrôle du prix quand l'agriculteur, le producteur premier, là, c'est-à-dire celui qui est propriétaire des vaches ou celui qui est propriétaire des poules, quand ça sort de son entreprise pour aller vers un producteur, vers un transformateur. Une fois que c'est rendu vers un transformateur, là, c'est une gamme complètement différente de règles. Il y a des systèmes d'administration très complexes qui sont à la fois un peu publics, à la fois un peu privés, à la fois un peu style syndicat de producteurs. Mais là, les règles deviennent beaucoup plus complexes et c'est généralement pas là non plus que le bas blesse en termes d'échange international parce que c'est vraiment au niveau de la production du premier matériau, mm-hmm. le lait brut, l'œuf directement sorti de la poule, que c'est là où il y a la compétition qui est beaucoup plus contrôlée.
Si vous venez de vous joindre à Boulevard 102.1, Farnel Morissette, c'est lui que vous entendez. Il est avec nous encore pour la prochaine heure. On te vole une heure et demie aujourd'hui.
Ben moi, je suis juste content d'être ici. J'ai une journée relaxe, alors écoute, je vous dis pourquoi pas.
On est super content que tu le sois aussi, à quoi que ce soit, 88-971-102.1. Avant d'écouter Shinedown, peut-être rappeler le décès d'Ozzy Osbourne, 76 ans, nous a quittés dans les dernières heures. Et là, ben, les hommages commencent à apparaître sur les réseaux sociaux.
Ah, les hommages pleuvent présentement. Et la dernière que j'ai vue passer, c'est l'hommage de Youngblood qui, on le sait, a participé au show du 5 juillet dernier, mm-hmm. puis a même offert un des moments marquants de ce show-là. L'espèce de flambeau qui a été passé d'une certaine façon de Ozzy Osbourne à Youngblood. Et là, ben, le jeune qui réagit en disant « Je ne pensais pas que tu partirais si tôt la dernière fois que nous sommes rencontrés. Tu étais si plein de vie, ton rire remplissait la pièce. Mais comme on dit avec les légendes, ils ont l'air de savoir des affaires qu'on ne sait pas. » Fait que, tu sais, ce que dit semble laisser paraître un peu Youngblood, c'est « Est-ce qu'il le savait qui vivait ses derniers moments puis qui en profitait à fond. Je vais jamais t'oublier. Tu vas être dans chaque note que je vais chanter et avec moi chaque fois que je vais monter sur scène. Ta croix autour de mon cou, est-ce que je possède de plus précieux? Tu m'as demandé un jour si tu pouvais faire quelque chose pour moi, puis comme je t'ai dit et comme je te le dis maintenant, pour nous tous, la musique que tu as eu à nous offrir, ça suffit, tu peux rien faire de plus. Tu nous as traînés dans ton aventure, une aventure qui a tout commencé pour bien du monde. J'ai le cœur brisé, tu as été le plus grand de tous les temps.
Mon Dieu, c'est poignant.
Hommage de Youngblood pour Ozzy Osbourne qui nous a quittés plus tôt aujourd'hui à l'âge de 76 ans.
Dans les prochaines minutes, on change de sujet avec Farnel. On discute du droit de vote. Un article du Journal de Québec qui nous a fait pas mal réfléchir aujourd'hui. Est-ce qu'il faut abaisser l'âge comme le proposent les Anglais? Je vous fais ça rapidement, mais il y a une diminution du taux de participation aux élections, puis le gouvernement du Royaume-Uni veut baisser l'âge légal pour ce qui est du droit de vote de 18 ans à 16 ans. Vous en pensez quoi? 88-971-1021. On entend de tout bord, de tout côté. Ben, les jeunes, ils n'ont pas l'intérêt. Ça ne sert à rien. On va vous lire dans quelques secondes, juste après Shinedown. Voici Monsters. Vous êtes à Boulevard 102.1 dans le retour de Boulevard jusqu'à 18h.